présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Premier souvenir d'un adolescent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. De sa chambre sans faire de bruit, il longe le couloir pour aller à la cuisine. Il ouvre le placard pour prendre dans un rayon une boîte en fer. La boîte. Dedans, il y a de la monnaie. C'est pour les courses du ménage. Il hésite et prend 5 francs, puis remet la boîte en place. Se coucher. Dans sa chambre, il y a un grand lit. Il dort avec un de ses frères, Luc. L'argent était mis dans un cartable. Car demain, c'est le jour où il va à la chambre des métiers. Henri est apprenti bottier, travaille chez Bali, dans une fabrique à Villeurbanne. Il a 16 ans, cela fait 2 ans qu'il travaille. Il est grand, maigre, la peau très blanche et ses cheveux châtains. Ses yeux sont d'un bleu profond, c'est la seule chose qui semble vivante chez lui. Ses gestes sont hésitants et nerveux. Veille a sonné à 6 heures, il fait encore nuit, il est clair. La pièce est grande, où en plus du lit à 2 places, il y a à côté un petit lit à 1 place où est couché son autre frère, Laurent. Henri quitte son pyjama et s'habille d'un polo gris et d'un pantalon marron. De la chambre avec son cartable et ses chaussures à la main. Il va va à la salle d'eau se raser. Avec un rasoir manuel, il n'aime pas ça et se rase qu'une fois par semaine. C'est à cause de son père, car il crie lorsqu'il ne le fait pas. Puis, il va à la cuisine prendre son petit déjeuner. D'habitude, c'est sa mère qui fait bouillir le lait, car il a peur du gaz. Et oui, nous sommes en 1964 et l'on faisait encore bouillir le lait que l'on recevait entier avec de la crème dedans et qui était acheté tous les jours. Une fois dehors, avec son cartable à la main, il fait encore nuit. L'immeuble de ses parents se trouve route de Vienne. C'est un immeuble récent et l'appartement se trouve au dernier étage, au cinquième, sans ascenseur. Les magasins s'ouvrent, cafés, marchands de journaux, boulangers. Ils sont déjà ouverts depuis 5 heures pour les premiers ouvriers qui vont à leur travail. Henri marche à pied. Il va à la chambre de Mickey à pied car il n'aime pas le car. Avenue de Saxe, avant d'entrer dans la chambre des métiers, il entre chez un libraire pour s'acheter un livre. C'est pour cela qu'il a pris de l'argent à ses parents. Il prend l'argent sans demander parce qu'il n'ose pas demander. C'est à cause de sa timidité. Il achète des livres de poche. Ce n'est pas trop cher et ça ne prend pas beaucoup de place. Le livre peut se mettre dans une poche. À la chambre des métiers, il rencontre des jeunes de son usine, qu'il ne fréquente pas d'ailleurs, car il ne parle à personne. Par timidité, honte, parce qu'il se croit pas comme les autres, sans culture, laid, et qu'il aime des choses à part, telles que le livre, les silences. Oui, il aime le silence, les livres, la culture, puis il a un côté romantique, qu'il ne voit pas chez les autres. Les autres lui font peur. Le soir, c'est sa mère qui le reçoit. Elle est grande, mince, les cheveux châtains, toujours habillée pour la maison d'une blouse gris clair. Bonjour maman, il l'embrasse sur la joue. Bonjour Henri. Va, tu as encore couru, tu es tout essoufflé. Va vite dans la salle d'eau, tu me diras quand tu seras prêt. C'est sa mère qui lui lave les cheveux et lui frotte le dos. Il n'aime pas ça. Il a honte. Un matin, il s'est enfermé dans un sac d'eau pour se laver sans son aide. Ça fait toute une histoire. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle rouspète et dit qu'il est trop grand pour se faire laver. Et en même temps, elle tient absolument à le laver. Ensuite, Henri va à la cuisine. On pour manger sa soupe. Ils ont tous mangé, sauf lui et son père. Son père qui rentre à 22h car il fait les 3-8. Les repas sont toujours à peu près les mêmes. Sa mère n'aime pas faire la cuisine et tient à l'efficacité, rapidité. À midi, beefsteak haché à la sauce tomate, plat de pommes de terre, fromage, fruits. Le soir, soupe de légumes, fromage, flan. Lorsqu'Henri était petit, pour son goûter de 16h, du pain et du sucre. Sa mère ne travaille pas, elle est souvent malade, des nerfs et le foie. Le principal souci de sa mère, c'est que sa famille soit et vive dans le propre et qu'elle ne manque pas de quoi manger. L'appartement est propre et il ne traîne rien. Tout est nettoyé et pousseté, même les jouets des enfants ont été achetés en plastique pour pouvoir être lavés. Henri n'est pas heureux chez lui. Il ne peut parler. Des problèmes personnels ne se discutent pas dans la famille. Il n'y a que l'utile et le pratique qui comptent.
Joyeusement, cette journée de télévision venait donc faire un tour au bar de
télévision. Après le repas du soir, ils sont tous devant la télévision. Personne ne parle, même si l'émission n'est pas intéressante, on la regarde. À 22h, le père arrive. En entrant, la première des choses qu'il dit, pas encore couché. Henri et ses frères se lèvent pour aller se coucher. Sa mère va servir son père.
Il est évident qu'il est difficile de trouver toujours le mot exact.
Et même la tournure de phrase.
Quelquefois, même des incorrections comme mot. Un espèce ou une espèce. Il faut faire un peu attention. Ouais.
Dans la nuit, Henri va dans les WC pour lire. Il n'aime pas lire devant les autres, car on lui demanderait ce qu'il lit et on lui ferait des critiques. Henri adore le cinéma, mais ne peut y aller parce que ça coûte trop cher. Il rêve d'avoir une caméra, un projecteur et a plein d'idées de scénarios. Il rêve devant les affiches de cinéma et les photographies de films. Tous les mercredis, il lit le Progrès pour les résumés des nouveaux films sortis. De ce qu'il aime, il ne peut en parler, car il a peur qu'on se moque de lui et qu'on ne le comprenne pas. Alors il ne parle presque pas à la maison. Sa vie est intérieure, tellement intériorisée, qu'il a des difficultés pour parler et qu'il bégaye un peu en rougissant. Lorsque des amis viennent à la maison, il se cache pour ne pas les voir, par timidité et honte de ce qu'il est. Henri se trouve dans le couloir, il entend son père et sa mère parler dans la cuisine. Le père dit, « Je trouve Henri sournois.
Pourquoi ?
Il ne parle pas. Quelqu'un qui ne parle pas, ce n'est pas naître.
Tu exagères tout de même.
Je suis sûr qu'il va nous faire quelque chose.
Oui, je suis sûr. »
Ce que pense son père, cela fait mal à Henri. Cela lui fait très très mal.
y a des jours où Henri sent sa vie tellement triste qu'il se sent incompris et a peur de l'avenir. Pourtant, il aimerait que sa vie change. Alors, il a envie de pleurer. Il se dit qu'il aimerait mourir. Lorsqu'il est enfermé dans la salle d'eau le matin, il vole dans l'armoire à pharmacie les somnifères de sa mère. Il y a tellement de boîtes d'avance que cela ne se voit pas. De temps en temps, il en prend un ou deux. C'est amer et ça lui donne envie de vomir, mais ça le fait dormir. À chaque fois qu'il les prend, il a l'impression de se donner la mort et ça lui fait du bien. Personne ne fait attention à lui. Personne ne fait attention à ses vêtements. Et comme il n'a pas d'argent pour en acheter, il est habillé de propre, mais usé, et toujours avec la même chose. Le travail qu'il fait chez Bali ne lui plaît pas. Il fait du collage. C'est pénible, la colle sent mauvais et les gens qui l'entourent ne l'intéressent pas. Il travaille même le samedi après-midi. Et le dimanche à la maison, c'est triste. La famille reste couchée jusqu'à 10 heures. Ensuite, il faut accompagner la mère au marché. Et même quelquefois à la messe avec les sacs à provisions. Et l'après-midi se passe à regarder la télévision. Les devoirs de la chambre de métier. Les dimanches sont encore plus pesants, que les autres jours de la semaine, car à la maison, on le traite comme un enfant. Un jour, il en a tellement marre qu'il se dit : et si je partais, je changerais de vie ? Il suffit d'aller dans une autre direction dont j'ai l'habitude. Non, ne faisons pas cela comme ça. Préparons un peu les choses. Tout d'abord, aller où ? À la campagne, on est vite repéré. En ville, oui, mais dans une grande ville. Paris. Voilà, Paris. Je prendrai le train et hop ! Tout d'abord, préparons. Il faut d'abord prendre de l'argent et un peu d'affaires. Un jour où les autres font le pont, je dirais que je ne le fais pas. Ça m'est souvent arrivé. Le pont du 1er mai, c'est dans une semaine. Je partirai le 2 mai, qui est samedi. La fièvre du départ l'a pris. Il fait une liste de ce qu'il doit emmener. Comme bagage seulement son cartable, nécessaire toilette, linge de corps, une chemise de rechange, un ou deux livres, quelques mouchoirs et beaucoup de rêves. J'irai chez un ami qui est comédien. Je demanderai de m'aider pour une chambre et but de travail. Ah, Paris, c'est tout de même quelque chose. ramasse petit à petit des choses qu'il range dans son cartable. À la maison, personne ne fait attention à lui. Ce qu'il reste maintenant à prendre, c'est l'argent. Il faut tout de même une certaine somme. Celui des cours ne suffit pas. Il sait que sa mère met l'argent de la paye de son père dans l'armoire de sa chambre entre les draps. Mais comment faire pour aller le prendre? Pas tout, bien sûr, mais juste un peu d'argent. La providence sait bien les choses. Un soir, sa mère mène les deux frères au dentiste. Le père est encore au travail. Une fois qu'ils sont partis, Henri va dans la chambre de ses parents pour ouvrir l'armoire. Ça sent le linge propre. Il passe sa main entre les draps et trouve le portefeuille. L'ouvre. Il y a quelques billets dedans. Il ne sait pas vraiment combien il lui faudrait, mais il prend un billet de 200 francs, ce qui est une jolie somme pour l'époque. Le journal ne coûte que 25 centimes, le kilo de pommes de terre aussi. Il remet le portefeuille et ferme l'armoire et sort de la chambre. Le billet le met dans sa chaussette. Une demi-heure plus tard, sa mère revient. Et va dans sa chambre pour se changer. Il est drôlement inquiet, mais non, rien. Seulement le lendemain matin, la mère demande au père s'il a pris un billet.
« Tu en es sûr ?»«
Oui. »«
Tu ne t'es pas trompé en donnant l'argent au laitier ? Tu aurais pu donner un billet de 200 au lieu de 20 ?»«
Non, je t'assure. » Le 1er mai se passe à la maison. Personne ne doit sortir à cause d'une manifestation. On ne sait jamais, il peut y avoir des bagarres. Henri a prévenu qu'il travaille le lendemain et qu'il fera journée continue. Le 2 mai, il se lève comme pour aller à son travail, prend son cartable et sort. Il arrive à la gare Perrache sans savoir l'heure du train, prend un billet pour Paris. Le prochain départ, c'est quand? Dans 20 minutes, quai 2A. Il y va. Un quart d'heure plus tard, le train arrive sur le quai. Il y a du monde, il n'arrive pas à trouver une place libre pour s'asseoir. Durant presque tout le trajet, il est debout dans le couloir du compartiment. Le temps lui semble long, très long.
correspond à Romain pour aller à Dieu.
Oui, je crois que je fais un billet.
Oui, évidemment, l'erreur, c'est que j'ai un billet. Parce que il vaut mieux prendre l'aller-retour, alors.
Oui, parce que je veux un aller-retour.
Il arrive à midi à Paris. Le ciel est gris. Il s'attendait à quelque chose de plus beau, de plus surprenant, de beaucoup plus surprenant. Il se trouve dans une ville quelconque, sans vraiment de charme ni de grandeur. Il sait que son ami habite boulevard D. Il demande comment il faut y aller. On lui indique un car. Arrivé devant l'immeuble, il est déçu par le côté modeste. Hésite avant d'entrer. Regarde sur les boîtes aux lettres. C'est au deuxième étage. Il prend l'ascenseur, il a la gorge serrée, mais sonne tout de même. Car il sait qu'il ne peut pas faire autrement. C'est un jeune homme qui le fait entrer. Il le regarde. Il est grand, mince, une épaisse chevelue or brune, les lèvres pulpeuses, les yeux bleus, est habillé d'un pull beige et d'un pantalon marine. Oh, mais c'est toi ? Quelle surprise ! Entre ! Henri entre et il ferme la porte. Tu es à Paris ? Oui. Pour combien de temps ? Henri se rend compte qu'il est ridicule et qu'il a fait une bêtise en faisant cette fugue. Je ne sais pas. Ah bon ? L'autre lui dit. Parce que ça tombe mal, moi je dois partir cet après-midi pour Cannes. Mais je vais te présenter à mes parents, viens. Henri dit. Non, vous devez certainement avoir beaucoup de choses à faire. Je passais simplement comme ça te dire bonjour. Ah bon ? Et il lui dit au revoir. Il ouvre la porte et se sauve en courant. Une fois dehors, il soupire, mais ne veut pas réfléchir. Sûrement que cela s'arrangera. Il achète une tablette de chocolat et déambule dans les rues. Au hasard, il tombe sur les Champs-Élysées, trouve l'avenue Belle. Fatigué, il entre dans un cinéma, voir le film Sans briques et des tuiles.
Nous sommes en 1800. Napoléon Bonaparte venait de remporter une éclatante victoire sur le baron de Mécas, commandant les armées d'Autriche en Italie. Et pour la première fois depuis la Révolution, la paix régnait sur le continent. Mais s'il ramenait des victoires, nos grognards ramenaient aussi en France une fameuse recette. Ils avaient en effet découvert dans une famille italienne un plat extraordinaire, des macaronis. quatre ans après, était fondée la célèbre fabrique de pâtes à l'italienne, Arto Giglione. On en consommait déjà en 1804, 150 ans plus tard, on en consomme toujours. Lorsque vous achetez un paquet de pâtes, achetez la marque Arto Giglione. Sans œufs ou aux œufs, vous serez sûr d'acheter la meilleure qualité. Ou sa jeune sœur, la marque Scaramelli, en paquet transparent, qui ne cède en rien à son aîné, est d'aussi bonne qualité.
Vous déjeunez chez vous ?
À 12h45, monsieur le directeur.
Je m'invite.
Le film l'a beaucoup amusé, surtout de voir qu'une des séquences du film, que l'on voit les Champs-Élysées alors qu'il y est. Le rêve a rejoint la réalité, c'est peut-être un bon présage.
Avec l'huile d'olive, tout est plus fin et plus léger.
Pensez à votre foie, choisissez l'huile d'olive.
Pure, fraîche, naturelle.
Et c'est bon.
Lorsqu'il sort du cinéma, il fait nuit, il voit Paris illuminé, déambule, ne sait combien de temps, il est fatigué. Alors il s'endort à terre dans une allée. Il est gelé, les nuits sont encore fraîches au mois de mai. Le lendemain matin, il se réveille tout courbaturé et passe sa matinée à déambuler, la fait toilette dans les toilettes des Champs-Élysées, manger du chocolat et à marcher. La nuit, dans les jardins des Champs-Élysées, il s'est senti triste, le cafard est venu. Alors il a pris les somnifères qu'il a emmenés dans une boîte de comprimés, il les a mis dans la main et avalé un à un. Le goût est infect, il s'est assis, a attendu, rien n'est venu, à part qu'il se sent euphorique. Il s'est levé et a marché pendant longtemps. Le sourire aux lèvres, il se sent bien. Puis, il a eu comme un brouillard. Alors, il a traversé une place, un coup de sifflet, un homme en civil qui vient vers lui, papier. L'homme lui montre sa carte, Henri lui montre les siens. Vous êtes fugueur ?
Oui.
Venez. Il le prend par le bras, Henri ne dit rien, laisse faire. C'est sa destinée. On l'a mené au commissariat, fait asseoir. On vient le chercher pour la déposition. Il répond aux questions. Sans hésiter, mais ne veut pas dire pourquoi il a fugué. Ensuite, on le mène dans une cellule. Il s'assoit sur un banc. Il y a déjà un jeune homme qui est comme lui, brun, le visage rieur, habillé d'une chemise à carreaux et d'un jean. Il a à ses pieds des baskets. Le jeune lui demande « Tu as fugué toi aussi ?»«
Oui. »«
Pourquoi ?»« Moi c'est pour aller à RTL. » Ils avaient dit qu'ils recherchaient des groupes rock. Alors je suis venu pour présenter mon groupe, je suis guitariste. Je me suis fait prendre cette nuit. À 7 heures du matin, les agents leur ont servi un petit déjeuner qu'Henri trouve excellent. Ensuite, on le laisse traîner dans le commissariat. Dans l'après-midi, un agent lui dit « On a prévenu tes parents, ils viennent te chercher. » Cette nouvelle assomme Henri. Il aurait mieux n'importe quoi, mais ne pas revoir sa famille. Ça va barder. La vie va devenir impossible pour lui. Il sera sûrement constamment surveillé. En fin d'après-midi, il voit arriver son père et sa mère. Il se fait tout petit. Les parents avancent vers lui. Bonjour papa, bonjour maman. Sa mère lui dit, tu peux dire que tu nous as fait du souci toi alors. Quelle idée as-tu de partir comme ça? Un agent vient vers eux. Vous êtes les parents? Oui. Venez avec nous pour les papiers. Pendant quelques instants, Henri se trouve seul. La porte est ouverte. Il se dit, si je peux partir. Mais non, à quoi bon? Je serai repris et ce sera encore plus dur. Ses parents reviennent. Et il sort avec eux. La mère demande, qu'est-ce qu'on fait maintenant que l'on est là? On visite, dit le père, et sur ses épaules. Si tu veux, mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Demande la mère à Henri. Champs-Élysées. On y va comment? Par métro, il faut descendre place de l'Étoile. Eh bien, allons-y. Ils prennent le métro et semblent oublier pourquoi ils sont à Paris. Ils jouent aux touristes. C'est bien, dit la mère. Oui, c'est pratique, dit Henri. Ils sortent et visitent les Champs-Élysées, puis cherchent un restaurant pour manger. Le repas est cher, infect. La mère demande, comment faisais-tu pour manger? Je mangeais des tablettes de chocolat. Tu n'allais pas au restaurant? Non, j'osais pas. Et pour dormir, je coussais dans les allées. Tu as mauvaise mine. Après le repas, la mère dit, on prend le train et on rentre. Dormir à l'hôtel, c'est beaucoup trop cher. qui sont allés à la gare et ont pris le train. Durant le trajet, ils ont somnolé. Arrivé à Perrache, les médicaments euphoriques ne font plus effet et Henri a le cafard de revenir à son point de départ, tout comme si rien ne s'était passé. À Lyon, la mer devient sombre. Cela nous revient cher, cette histoire. J'espère que tu t'en rends compte. Le père dit, c'est toi qui avais pris le billet de 100 francs. Oui, et c'est moi qui se fais engueuler par ta mère. D'entrer dans l'appartement, la mère dit « Nous n'avons rien dit à tes frères. Quelle honte ! Et dire que nous avons reçu les agents en cachette dans la salle à manger en leur disant de parler bas. » Ils entrent. Non, rien n'a changé. Tout va continuer comme toujours, la mère lui dit. Demain matin, tu retournes travailler. On leur a dit que tu étais malade. Allons nous coucher maintenant. Pendant qu'il est dans la salle de bain, à se laver, il entend sa mère dire « Tu vois, il ne nous a même pas demandé pardon. Il s'en fiche. Il se fiche de nous. Il se fiche de nous. Il ne nous aime pas. C'est un égoïste. » Je l'avais dit. Allons nous coucher maintenant. Il va falloir faire attention à lui. Tu te rends compte? Ne pas faire confiance à son fils, cacher l'argent et tout. Quelle honte! Et les voisins, ils ont dû voir les policiers aller chez nous. Qu'est-ce qu'ils ont dû penser? Mon Dieu, quelle honte! Henri dort une bonne partie de la journée, le manque de sommeil de son séjour à Paris. Puis, il sort de sa chambre le corps gros. Prêt à demander pardon. Mais une fois qu'il est devant sa mère, il n'ose pas parler et dit simplement « Je vais au coiffeur. » « Tu sors ? » « Mais tu sais que la police nous a mis sur notre surveillance. Si tu recommences à partir comme tu le fais, ça ne se passera pas aussi bien. On te mènera devant le juge et tu risques la maison de correction. T'as bien compris ? Tu es sous notre surveillance. Fais attention. » Il sent que ses jours vont encore être plus sombres, qu'il va être étroitement surveillé et ne pourra plus sortir, sauf pour ce foutu travail. Travail, maison, et c'est tout. Et c'est tout. Fort est juste en face de chez nous. Bien, je te donne 5 francs et je te surveille de la fenêtre. Elle va chercher dans le placard de la cuisine la boîte en fer pour lui donner les 5 francs. et il est sorti. Chez le coiffeur, homme exclusivement, et coiffeur de l'époque virile, avec blouse grise, le salon est poussiéreux, ça sent le parfum bon marché et le savon à barbe. Les sièges ressemblent à ceux des dentistes, en cuir, sur roulettes, qui montent et descendent, etc. Chez le coiffeur, l'on parle du palmarès de la chanson de Guy Lux qui passe ce soir à la télé avec comme invité Charles Aznavour. Le coiffeur se dispute avec un jeune client qui dit qu'il lui, il préfère Johnny Hallyday. « Ne chante pas ton mec, il crie, et en plus, ses chansons ne veulent rien dire. » Cela distrait un peu Henri. Non, rien n'a vraiment changé. Ce soir, il verra le palmarès de la chanson et demain matin, il ira travailler. Tout est en place. Il ne sortira jamais de cette vie. Où l'on est dans un endroit, l'on doit y vivre jusqu'à la fin de ses jours. Passe, triste, il ose encore moins parler à la maison, ni regarder la famille. Ses parents le prennent pour un pestiféré, il est constamment surveillé, il n'a pas le droit de sortir. Le trajet de la maison à l'usine sont les seuls moments de liberté. Il les souhaite le plus long possible. Durant ces trajets, il s'invente des histoires, rêve qu'au coin de la rue, il lui arrive quelque chose. N'importe quoi, mais quelque chose, même un accident, n'importe comment, qu'on le sorte de cette vie. Oui, qu'on le sorte de cette vie, même par la mort. À force, il devient mélancolique, ne parle plus à personne. À qui d'ailleurs? Pour les siens, il a un fils indigne qui s'est mal conduit et qu'il faut surveiller. L'appartement est devenu sa prison, sa cellule, ses parents, ses gardiens. Alors, des fois, il a envie d'hurler et de dire qu'il n'est pas un criminel et qu'il veut vivre. Mais il ne peut pas. Alors, il sombre dans un trou noir. Un soir, après son travail, il n'a pas envie de rentrer chez lui. Il en a assez de cette vie monotone. Il longe les quais du Rhône et se penche. Il se sent attiré par cette eau, constamment en mouvement. Tout à coup, vous aimez l'eau, vous aussi? Et voit à côté de lui un jeune de son âge, grand, mince, ses cheveux blonds chantants, un visage très pur. Le jeune lui sourit. « M'appelle Christian. Et vous, Henri? Vous habitez dans le quartier ?» Non, plus loin, route de Vienne. C'est loin, ça? Non, pas trop, mais j'aime marcher. Ça se voit? Eh bien, marchons. Vous allez où? Moi, je vais vers la place Jean Massé, dit le jeune. Nous y allons? Ils partent. Henri ne s'est pas rendu compte qu'il vient de se conduire normalement. Le jeune lui dit, tu passes souvent ici? Oui, tous les jours, pour mon travail. Nous verrons souvent, car c'est mon chemin à moi aussi, dit le jeune. Henri est heureux car il croit qu'il a trouvé un ami. Ils se sont rendus compte que tous les deux ils aimaient le cinéma, en ont parlé jusqu'à chez Christian qui habite dans un immeuble place Jean Massé. Henri lui dit, je connais bien ton quartier, j'allais avant à l'école à Saint-Michel. Avant de le quitter, Christian lui dit, mes parents ne sont pas là, ils ne reviennent qu'à 21h. J'ai faim, tu peux me donner un peu d'argent pour que je puisse m'acheter un pain russe? Henri regarde dans ses poches, car depuis sa fugue, ses parents ne lui donnent pas d'argent de poche. Il trouve une pièce de 5 francs, la lui donne. Merci, tu es chouette. À demain. Henri est heureux, il croit avoir trouvé un ami. Ils se voient tous les jours et s'attendent sur les quais du Rhône. Ils parlent beaucoup, surtout Christian. Et chaque soir, c'est la même chose. Christian demande de l'argent pour son pain russe. Les jours passent. Henri, toute la journée, attend cet instant d'amitié. Un soir, Henri n'a pas la pièce. Christian est furieux. Espèce de radin, pauvre con. Je veux plus te revoir. Je perds mon temps avec toi. Si tu crois que tu m'intéresses, allez, fiche-moi le camp. Et c'est ainsi que s'est terminée sa première amitié. Henri a beaucoup souffert et s'est renfermé sur lui-même. Le temps passe, la vie est toujours la même. Henri a maigri, ses vêtements se sont dégradés, son moral aussi. Un jour, son frère Luc, qui est assis à côté de sa mère, lui dit en regardant Henri, « Regarde maman, comme il est Henri, on dirait un clochard, il est sur les maigres. » Henri rougit et s'apprête à s'éloigner. Sa mère le regarde, le voit pour la première fois, tel qu'il est. Elle en a honte et pâlit. Henri, tu es malade? Non. Henri, demain, nous t'achèterons des vêtements. Henri et sa mère ont fait des magasins. Henri n'aime pas choisir, essayer des vêtements. Heureusement que sa mère est là pour l'aider. Ensuite, elle l'a amené chez un médecin qui l'a trouvé bien nerveux et maigre. Elle a prescrit des tranquillisants, remontant et dit qu'il doit se reposer un peu et se distraire. En sortant du magasin, sa mère lui a donné un billet de 10 francs. « Tiens, tu en auras un chaque mois. C'est pour toi. »« Merci, maman. » Je vais rentrer seule, je te laisse en ville. Va voir un film et ne rentre pas trop tard. Elle l'embrasse et va prendre son car, le numéro 12. Henri est allé voir La Bonne Planque avec Francis Blanche, Serrault et Sophie Desmarais. Il est tout retourné et se demande ce qui lui arrive. Des vêtements neufs, de l'argent. 10 francs à cette époque, c'était pas mal pour de l'argent de poche. En rentrant le soir, la famille est déjà couchée. En passant devant la chambre de ses parents, il dit « Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Henri !» lui dit sa mère. Dans sa chambre, par hasard, il se voit dans la glace de l'armoire. Il est surpris. Il se trouve mieux qu'il le pensait, moins laid, pas bossu, pas vieux, mais un jeune homme un peu maigre, mais pas si mal. Il se trouve pas mal et se met à s'aimer un peu. Un jour, son contremaître ouvre le tiroir de la table de travail. Il trouve dedans un livre précis d'histoire de la littérature française des origines à nos jours. Il est surpris. Le contremaître est un homme de 30 ans, grand, mince et cheveux blonds. Il fait signe à Henri de venir. C'est à toi ce livre ? Oui. Tu lis ça ? Oui. Tu lis pourquoi ?
Je lis des romans, des livres philosophiques. C'est pour connaître le monde, l'homme. Je cherche à savoir pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi vivre, jusqu'où la vie va nous mener, la recherche de l'absolu. Est-ce que je vis vraiment ? Le contremaître est surpris, il se met à rire. Tu parles ! Il parle ! C'est un vrai miracle ! Il parle ! Il le prend dans ses bras et lui dit : C'est bien, il faut s'exprimer, parler, ne pas rester enfermé, fermé en soi. Nous parlerons de tout ça. Ne seras plus seul à présent, car en parlant, on se fait des tas d'amis, et c'est plus facile de trouver le bonheur. Allez, c'est bien, continue à parler, mon petit. Continue, continue.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Premier souvenir d'adolescence. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRS.